Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes bien sur Calibre, la libre antenne du jeudi soir sur Radio Kaléidoscope. Et on commence notre troisième saison cette année.
Calibre saison 3. Alors, en plus, cette année, vous aurez le plaisir d'entendre de nouvelles voix à l'antenne. Bon voilà, vous les découvrirez au fur et à mesure des émissions.
Donc Calibre, qu'est-ce que c'est ? Bah, peut-être on peut profiter de cette rentrée pour rappeler un peu ce que c'est. C'est une libre antenne, donc vous pouvez nous appeler, comme le jingle le dit, au 04 76 09 09 09 pour nous parler de quoi ?
Alors, les grands thèmes, hein, c'est assez vaste, c'est tout ce qui va être relation affective, amour, amitié, comment on s'en sort pas, les questionnements, les choix. Pareil en ce qui concerne les sexualités, les pratiques, les envies, des questions aussi, des infos, et puis sur un truc qu'on a appelé le rapport au corps, comment on sent avec notre corps, comment on bouge avec ou pas, ou comment il marche, enfin bon voilà, ça peut être, c'est hyper vaste en fait, donc c'est vraiment ce qui vous donne envie de nous appeler quoi, ça peut être ou des questions précises, ou des coups de gueule, ou des témoignages à apporter, ou un débat à lancer, voilà.
Voilà, puis bah nous on est là pour en discuter avec vous, puis pour peut-être essayer d'apporter quelques pistes à des questionnements si vous en avez. Et donc ça se passe tous les jeudis de 20h à 21h et l'émission elle est aussi téléchargeable sur notre site internet qui est calibre-cas-libre.org.
Voilà, et vous pouvez, si vous ne vous sentez pas d'appeler en direct, parce que oui, le numéro qu'on vous donne, là, le 04 76 09 09 09, c'est le numéro du studio. Donc vous pouvez nous joindre uniquement sur les directs le jeudi soir. Et sinon, bah, vous pouvez nous envoyer, si vous ne vous sentez pas d'appeler ou quoi, vous pouvez nous envoyer des mails aussi sur notre adresse mail qui est k-libre@poivron.org. Voilà, après, on a une petite préférence pour les échanges en direct de voix à voix parce que ça permet de mieux comprendre la situation et d'apporter divers points de vue, mais vous pouvez quand même nous écrire, ça nous fera plaisir.
Et sinon, on voulait juste un petit peu s'excuser pour nos fans qui ont essayé de nous écouter cet été. On avait préparé des best-of pour tout l'été. Et en fait, il y a eu un peu quelques problèmes techniques à la radio qui a fait qu'il n'y a pas eu tous les best-of préparés qui ont été diffusés. Bon, bah,
de toute façon, tous les morceaux des best-of font partie de la saison écoulée, donc vous pouvez tout retrouver sur le site internet, puisque tous les épisodes, ça y est, je suis partie, toutes les émissions Calibre sont téléchargeables ou écoutables sur notre site, avec bon, voilà, vous pouvez chercher par thématique, enfin bon, vous verrez quoi, c'est formidable, nous sommes formidables. Non, c'est pas... Peut-être ce soir, on peut dire qui on est, je crois qu'on l'a pas dit à l'antenne, c'est Mélanie et Myriam. Et à la technique, et pour recevoir vos appels, c'est Greg et Émilie.
Voilà, voilà, on écoute une petite musique pour commencer. Enfin, petite, je ne sais pas si elle est petite. Hein. C'est Babes in Toyland, c'est Sweet 69.
I'm
voilà, c'était Sweet 69 de Babes in Toyland. Alors vous aurez peut-être compris le titre de la chanson qui est 1269, qui fait référence à une pratique sexuelle.
Tête bêche. En se léchant réciproquement le sexe.
voilà. Nous, on avait envie de commencer par raconter qu'on a une auditrice qui nous a écrit cet été pour nous parler du tube de l'été, que sa cousine, un truc du
sa
genre,
nièce.
Sa nièce, bref. De 14 ans, écoutait en chantant à tue-tête, et elle avait été outrée par les paroles de cette chanson. Donc cette chanson, c'est Aurélie de Colonel Réel. Et Mimi, tu peux peut-être nous raconter un peu ce qu'elle raconte,
ouais,
cette
l'histoire.
Chanson.
Bon, déjà, c'est un vrai tube de l'été, c'est-à-dire je l'ai écouté deux fois, j'ai l'air à fond dans la tête. Enfin voilà, ça marche, ça martèle et tout ça. Et en gros, c'est l'histoire donc d'une fille qui s'appelle Aurélie, qui a 16 ans, qui a son premier rapport sexuel avec un gars du quartier, voilà, un peu vieux, un peu plus vieux qu'elle, et qui se retrouve enceinte, mais lui, il répond plus à ses appels, donc elle se retrouve seule avec cette histoire, et elle décide que, comme dit le colonel Réel, elle se sent prête qu'on l'appelle maman. Du coup, elle décide de mener à terme cette grossesse, alors que les gens autour, non seulement lui conseillent de l'avortement, mais les gens réagissent mal, c'est-à-dire son père et sa mère la virent de chez elle, parce qu'elle est enceinte de 3 mois, et du coup, elle peut plus avorter, du coup, il faut qu'elle se trouve un logement, un boulot, enfin, un truc, une situation hyper dure. Donc bon, c'est vrai que se raconter comme ça, ça peut ne pas faire bondir en fait comme histoire, parce que c'est juste l'histoire d'une nana qui décide, elle est enceinte et elle décide d'avoir cet enfant, c'est son choix personnel, elle se sent prête, elle en a envie, et c'est dégueulasse que les gens autour, ils la soutiennent pas dans son choix, et ils l'envoient chier, et ils la mettent à la rue, effectivement.
Sous prétexte qu'elle a 16 ans et que ça serait pas le moment pour une fille de 16 ans de devenir mère, quoi.
Voilà. Alors que c'est bien à chacune de décider si et quand elle veut devenir mère, en fait.
Pour autant, quand même, il y a un peu quelques trucs dans cette chanson qui laisse sous-entendre que la vie, c'est plus,
en fait, en gros, il dit donner la vie, c'est le plus beau geste de la qu'on peut faire au monde. C'est être mère à tout prix, mettre un enfant au monde, ça devrait pas être puni. Si c'est la plus belle chose qui soit, si tu le nies, t'as rien compris. Enfin, il y a vraiment une ode au fait de devenir mère et de donner la vie, comme il le dit.
Et ça, du coup, c'est un peu craignos, parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent être... D'ailleurs, cette chanson a été reprise sur pas mal de sites qui s'appellent Pro-vie et que nous, on nomme plutôt anti-avortement. Cette ode à la vie, en fait, elle se fait souvent au détriment du droit à l'avortement, parce qu'en fait, on valorise vachement ce droit à donner la vie et on... Moi, je suis pas très claire. Hein,
si, c'est très bien. Non, et puis peut-être expliquer pourquoi nous on veut pas appeler ces gens qui s'auto-nomment pro-vie des pro-vie, mais plutôt des anti-avortements, parce que on peut pas se définir pro-vie quand en fait toutes les morts liées à des avortements dans le monde, c'est parce que c'est des endroits où l'avortement est illégal, soit totalement illégal, soit à partir d'un certain stade de grossesse, et que du coup c'est complètement une aberration de s'appeler pro-vie quand, en interdisant l'avortement, de fait on tue des femmes, en fait. Donc c'est pour ça, et c'est un petit peu ça, c'est ça qui nous gêne en fait dans ces gens-là, et puis dans ce texte-là, c'est-à-dire que lui, il a peut-être pas fait avec une mauvaise intention, c'est vraiment un truc de chacune elle choisit comme elle veut, et moi mon kiff c'est les enfants où c'est donné la vie, donc je choisirai ça pour moi, il n'y a pas de souci. Sauf que un, c'est récupéré, et deux, il y a quand même une espèce de mystification de c'est génial de donner la vie, on se réalise en étant mère, et ça, bon, on en a déjà parlé sur l'antenne, mais c'est encore un choix personnel, quoi. C'est pas parce que la société nous pousse à devenir mère que c'est comme ça qu'on se réalise, en fait.
Et moi, j'ai l'impression qu'en plus, même si le droit à l'avortement, on a, en France en tout cas, on a le droit d'avorter depuis maintenant une quarantaine d'années, puisque la date, non, c'est 75, du coup 35 ans, il y a quand même un c'est toujours une pratique qui reste menacée, en fait, dans ces conditions d'exercice, dans tout ça, et ça pas que, et du coup dans les représentations, dans les discours, et ça pas qu'en France. Et d'ailleurs, Myriam, tu voulais nous raconter ce qui se passe en ce moment en Angleterre à ce propos.
Ouais, il y a, bon, alors, il y a tout le temps, toute l'année, dans tous les pays du monde, des remises en cause du droit à avorter, mais donc la dernière info qu'on a eue, c'est en Angleterre, une députée qui avait déjà essayé de poser un amendement en 2008 pour réduire le délai possible pour pratiquer une IVG, donc une intervention volontaire de grossesse. Bon, c'était soutenu par plusieurs ministres, mais c'est pas passé. Et là, rebelote, et cette fois, elle est soutenue par le ministre de la Santé. Et son idée, c'est de transformer les entretiens pré-avortement, enfin qui ont lieu avant les avortements, en instaurant un délai obligatoire de 10 jours. Et en faisant en sorte que ces entretiens-là, avant de décider d'avorter, ils ne soient pas réalisés par les cliniques où se pratiquent les avortements, mais par des organismes dits indépendants. Et de fait, son idée, elle, c'est que ce soit des associations anti-IVG qui réalisent ces entretiens-là pour dissuader les femmes d'avorter en appuyant sur la culpabilisation. Voilà, des choses qui peuvent... Cette culpabilisation des femmes qui avortent, genre de se faire traiter de récidivistes ou de choses comme ça, ça arrive aussi dans l'institution et dans les cliniques qui pratiquent l'avortement, c'est clair. Après ça limite quand même cette portée-là, c'est-à-dire si c'est des associations anti-avortement qu'ils font, j'ose même pas imaginer ce que les femmes qui veulent avorter, elles vont avoir comme bâton dans les roues pour réussir à le faire.
Et ça, elle le dit ouvertement qu'elle veut confier ça à des organismes?
Non, elle le dit pas comme ça. Mais en tout cas, son but, c'est de faire réduire le nombre d'IVG de 30%. Ouais. Donc actuellement, l'Angleterre, c'est 200 000 par an à peu près, ce qui est le même chiffre en France, enfin, c'est 220 000. Et elle veut baisser donc à 140 000. Voilà. Donc c'est encore ce truc de l'objectif, c'est zéro avortement, parce que quand même, l'avortement, c'est pas bien. Voilà.
Et du coup, nous, on voulait rappeler un peu quelques trucs de base concernant l'avortement, et à savoir que on va dire de tout temps, enfin, c'est un peu nul de faire comme ça des grandes généralités, mais en vrai, l'avortement, c'est une pratique qui est utilisée par toutes les femmes dans le monde comme maîtrise de leur fécondité, en complément des moyens de contraception quand elles en ont l'accès. Mmh. Et c'est illusoire de vouloir réduire ces avortements. Il vaut mieux contribuer à créer des bonnes conditions d'avortement pour... Et notamment les légaliser, ça c'est sûr, parce que je me souviens plus vraiment des chiffres, mais je crois que il y a une femme tous les combien qui meurt d'un avortement illégal.
Toutes les 7 minutes dans le monde, une femme meurt des suites d'un avortement pratiqué dans la clandestinité parce qu'elle pouvait pas avorter légalement dans des bonnes conditions.
Alors que dans des bonnes conditions, ce n'est pas un acte dangereux.
Il n'y a pas de mort liée aux avortements pratiqués dans des légalement, hein, c'est-à-dire les. Non, les seuls risques, c'est si on décide de faire une anesthésie générale, parce que bon, il y a deux méthodes. Je ne sais pas si on les explique tout de suite ou bon, mais j'y suis. Je vais expliquer. Donc il y a suivant où en est la grossesse. En fait, il y a une ou deux possibilités, jusqu'à 5 semaines de grossesse. Alors je reprends mes petits papiers pour pas vous dire des bêtises. Hein, voilà. Jusqu'à 5 semaines de grossesse, qui correspond a priori à 7 semaines après le début des dernières règles, on peut pratiquer ce qu'on appelle l'avortement médicamenteux, qui se pratique avec une pilule à prendre et qui va déclencher des contractions pour expulser le début de grossesse. Et ça, depuis récemment, c'est possible de le faire hors hôpital, c'est-à-dire avoir avec un médecin de ville. Bon, il faut que ce soit un médecin ou une médecin agréée qui ait l'agrément pour faire ça. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le demandent. Mais en tout cas, les plannings familiaux, a priori, là, ils sont
l'ont
tous
demandé.
Mis, ils l'ont demandé, ils l'ont eu récemment. Et après, vous pouvez décider de prendre cette pilule soit dans le cabinet, soit chez vous, entouré de personnes que vous souhaitez. Voilà. Ça, c'est une première possibilité. Mais au-delà de ce délai de 5 semaines de grossesse et jusqu'à 12 semaines de grossesse, là, on peut...
Moi, j'ai envie de dire... De toute façon, la deuxième méthode, oui. On peut l'utiliser jusqu'à 12 semaines de grossesse. On n'est pas obligé, si on est à moins de 5 semaines de grossesse, d'utiliser la méthode médicamenteuse. C'est vrai que les praticiens la conseillent presque systématiquement, voire vous proposent pas d'alternative parce que c'est plus compliqué. Il y a la seconde méthode, ça demande une hospitalisation, etc. De pas très longtemps, hein, mais... Mais en fait, si vous n'avez pas envie d'absorber des hormones pour avorter, c'est aussi possible de demander la deuxième méthode, qui est la méthode mécanique.
Ouais, mécanique, on entend méthode chirurgicale, mais ça fait un peu peur. Alors on préfère dire une méthode mécanique où ça va être effectivement une hospitalisation sous anesthésie locale ou générale. Donc effectivement, il n'y a pas d'hormones, mais il y a quand même des produits dans le corps. Enfin, ce n'est pas une méthode plus naturelle ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Et l'idée, c'est d'aller frotter le début de grossesse, d'aller aspirer, donc c'est la méthode de Carmen. Et puis voilà, du coup, il n'y a pas de saignement pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, comme il peut y avoir avec la prise de médicaments, parce qu'une fois qu'on est sorti du bloc, c'est fini, quoi. Par contre, effectivement, ça nécessite une hospitalisation, donc rendez-vous avec anesthésiste, trouver le temps, être disponible sur les créneaux proposés pour le faire, voilà.
Et en tout cas, ce délai-là de 12 semaines avec cette méthode-là, c'est ce qui concerne la France. Dans d'autres pays, les délais vont jusqu'à 14 semaines.
Ah, mais l'Angleterre, là, l'idée de l'amendement, c'est de réduire de 24 à 20 semaines. Donc, on est déjà sur le double de semaines, hein, à la base.
Oui, donc voilà, il n'y a pas de contre-indication médicale non plus à pratiquer cet avortement-là, à 24 semaines de grossesse.
Non, parce que
c'est important aussi de l'avoir en tête.
Pour les avortements dits... Alors, je sais plus comment on dit, mais où, en gros, l'enfant à naître, il y a des chances qu'il soit ou qu'elle soit handicapée. Et du coup, on peut faire un avortement dit thérapeutique. Et là, les délais, c'est pratiquement jusqu'à 9 mois, quoi. Mais ce qui fait que si vous dépassez les délais, ce délai de 12 semaines, contactez le planning familial parce qu'ils ont moyen de vous aider à aller dans des pays où les délais sont plus longs, notamment en Espagne.
Et en Belgique.
Et en Belgique.
Alors, du coup, on pourrait aussi dire c'est où qu'on peut pratiquer des avortements à Grenoble, si on le souhaite.
Tout à fait. Bon, alors, la liste des médecins de ville qui ont été agréés pour donner la pilule abortive, on l'a pas. Donc, le mieux, c'est de contacter le planning familial pour qu'il vous renseigne là-dessus.
Et d'ailleurs, j'aurais qu'à donner le numéro. Alors, le planning familial, il y a des antennes sur toute l'Isère, mais celui qui est à Grenoble, il est boulevard Gambetta. Il n'y a pas le numéro. En tout cas, le numéro de téléphone, c'est 04 76 87 94 61.
Voilà, par rapport au planning familial aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que depuis 2001, les femmes mineures, donc de moins de 18 ans, ne sont pas obligées d'avoir une autorisation parentale en fait, pour avorter. Elles peuvent choisir un adulte, une personne majeure de leur choix. Et du coup, ça peut être des personnes du planning familial. Voilà, vous n'êtes même pas obligé d'en informer les gens autour de vous.
Et sinon, il y a à l'hôpital de Grenoble, au CHU, il y a un centre d'orthogénie. Donc, c'est un centre où on pratique des avortements, quoi, mais pas que. C'est aussi un centre de planification où il peut y avoir des conseils sur la contraception. Et alors là, c'est au 04 76 76 54 09. Et pour un peu avoir une idée des délais, on a Calibre à tester pour vous.
Calibre à tester pour vous.
On a téléphoné aujourd'hui au CHU et du coup, pour avoir un premier rendez-vous avec un médecin, parce que pour faire un avortement, on a toujours un premier rendez-vous avec un médecin pour faire le point de où en est la grossesse, quelle méthode choisir, etc., etc. C'était un délai de 5 jours, sachant que l'avortement après se passait 7 jours après ce rendez-vous. Donc voilà, il faut compter une quinzaine de jours.
Entre le moment où on appelle et le moment où on va pouvoir réaliser l'avortement. Après, voilà, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que là, on a appelé en disant qu'on était a priori enceinte, que la personne était enceinte de 5 semaines. Voilà, on se disait, si on avait dit 10 semaines, est-ce qu'ils nous auraient donné des rendez-vous plus en urgence? Voilà, ça, on ne sait pas, ça, c'est à tester, quoi.
Et sinon, vous les renvoyez sur un site internet qui donne pas mal d'infos sur l'avortement. Il faut faire assez attention. Donc, on vous le donne, puis après, je vous explique pourquoi il faut faire attention. C'est au www.sos-ivg.net.
sos-ivg.net.
Et parce qu'il y a d'autres sites, genre qui s'appellent IVG.net ou avortementivg.net, ou il y en a d'autres aussi comme ça, qui en fait sont des sites pro-vie ou anti-avortement. Donc en gros, ils vont vous faire croire qu'ils vont donner, vous donner des infos sur l'avortement, mais ils vont plutôt essayer de vous culpabiliser et vous donner toutes les solutions autres que vous... que certes, vous pouvez choisir si vous avez envie, mais je trouve que c'est assez craignos de passer pour de l'information objective et pro-choix quand en fait on a délibérément plutôt des positions anti-avortement.
Oui, absolument. Bon, je crois qu'on a à peu près dit les idées principales. N'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de précision ou si vous voulez nous lancer sur un tout autre sujet d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Le numéro, au cas où vous n'avez pas eu le temps de le noter, c'est le 04 76 09 09 09. En plus, c'est facile. Et puis, on n'a qu'à s'écouter un autre morceau de musique. Hein, alors, c'est Candy Kane, Can, je sais pas. C'est Greg et Emily qui ont choisi. I'm a bad, bad girl.
I'm a bad girl, just as bad as I can be. Just as bad as I can be. I don't know what's the matter. Trouble always follows me. I killed myself a black cat just the night before. Spread a little goofy dust all around my door, hoping I would chase the evil away. But when the dawn appeared, I had the devil to pay. I'm just a bad girl, and I've been bad most every day. Ready now to tell the truth and settle up the story. just as bad as I can be.
Ah bah ça a donné envie d'être dans son bain, comme on se disait. Très joli morceau. Alors, de quoi voulions-nous vous parler ? Oui, je ne sais pas si vous avez suivi cette polémique de cette fin d'été, je crois que ça arrivait un peu sur la fin, sur les manuels, les nouveaux manuels scolaires de SVT en classe de première L et ES. C'est un espèce d'énorme truc, tout le monde en parle et tout. Du coup, on voulait, nous aussi, dire notre mot là-dessus.
Donc on va rappeler rapidement cette histoire-là, parce qu'on va pas non plus en faire des tonnes, parce que vous avez sûrement déjà entendu plein de trucs et vous pourrez encore en trouver d'autres sur Internet, à la radio, dans les journaux, tout ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, le ministère de l'Éducation a demandé aux éditeurs de manuels scolaires d'introduire un nouveau chapitre. Bon, comme ça se fait en fait pour tous les manuels dans toutes les disciplines, c'est un peu des orientations pédagogiques, en tout cas de rajouter un chapitre masculin-féminin, avec un peu des détails de qu'est-ce qui est censé y avoir dedans, quoi. Bon, et les éditeurs de manuels scolaires, dont on va pas citer les noms ici, mais bon, voilà, ont pris au mot cette demande ministérielle et ont ajouté un nouveau chapitre avec des nouvelles notions dans les manuels de biologie, SVT, sciences et vie de la Terre, comme on appelle ça maintenant, de première L et ES. Et alors là, grande levée de boucliers, de pas mal d'assauts de catholiques, de profs aussi, de députés UMP aussi qui ont lancé une pétition pour dénoncer tout un tas de trucs autour de ces notions. Et en gros, ils dénonçaient l'introduction de la théorie du genre, alors même qu'aucun des manuels n'a parlé de cette théorie-là. Mais en tout cas, il y avait un peu des mentions de notions telles que genre, sexe biologique, identité sexuelle, orientation sexuelle, etc. Et alors là, ça a vraiment fait scandale et tout ça. Bon, j'ai l'impression que de toute façon, ça va être maintenu, mais en tout cas, puis nous, l'idée n'est pas de savoir si on trouve ça bien, qu'il y ait ça dans les manuels, parce que quelque part, c'est pas toujours très clair ce qu'ils y ont mis et tout ça. Mais nous, on voulait utiliser un peu cette occasion pour refaire un point un peu de définition sans pour avoir l'audace de croire que nous avons les définitions les meilleures du monde, etc. Mais en tout cas, de clarifier un petit peu cette question-là de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, etc. C'est quoi la différence voilà,
donc c'est vrai que la confusion, en fait, elle est juste pour expliquer pourquoi c'est autant le beans, là. C'est parce que, la directive ministérielle, elle n'est pas claire du tout sur qu'est-ce qu'ils veulent dans les programmes. Ils confondent des trucs. Deux, la levée un peu de bouclier, comme tu disais, des députés UMP, c'est des notions de toute façon qu'ils ne connaissent pas. Et ils reprennent ce qu'a dit Christine Boutin, qui elle-même reprend les directives du Vatican, quoi. Donc, en fait, personne ne sait rien, mais ça gueule dans tous les sens.
Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, ils dénoncent l'introduction de cette théorie sous des prétextes complètement hallucinant, comme quoi ce serait pas scientifique, ça vient des États-Unis, c'est trop pourri ou je sais pas quoi, alors que ces notions-là, elles sont déjà, elles ont quand même été un petit peu réfléchies, construites, etc., par des intellectuels français il y a déjà une trentaine d'années. Enfin, c'est pas pour dire que c'est super, c'est français, hein, c'est juste pour dire.
En fait, c'est vraiment le grand truc de on ne naît pas femme, on le devient. Donc là, c'est de Beauvoir, c'est typiquement des intellectuels. Française, wouh!
Et certes, aujourd'hui, c'est des questionnements qui sont plus portés par des universitaires philosophes, sociologues américaines. Enfin, c'est souvent des femmes d'ailleurs, mais en vrai, enfin, on s'en fout de façon que ça vienne des États-Unis ou pas. Ce qui est important, c'est le contenu, quoi.
Absolument. Et du coup, de quoi on parle ? Alors, la confusion qu'on voit souvent, c'est la confusion entre le sexe, le genre, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle. Bref, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Alors, reprenons du début.
Le sexe biologique.
Le sexe biologique.
Qu'est-ce donc ?
En fait, ce n'est pas un sexe biologique, mais ce sont trois sexes biologiques. Et oui, déjà, ça commence à se compliquer.
Le scoop !
Le scoop. Trois sexes biologiques qui sont, on peut dire, des données de base. A priori, on est avec. Donc, il se divise en trois sous-catégories, ce sexe biologique. Il y a le sexe qu'on dit sexe chromosomique. Donc, c'est quels sont les chromosomes qu'on a. Donc, le schéma, c'est XX pour les filles, XY pour les garçons. Voilà, et ça dépend de comment ça se développe.
Sachant qu'il existe des XXY ou des...
Voilà, vrai, on parle de pôles, et c'est pas deux pôles uniques, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les deux. Il existe des variations, en fait, c'est pas soit homme, soit femme. Bon, mais on reviendra dessus. Donc, un, le sexe chromosomique. Deux, le sexe dit le sexe gonadique. Alors, ça fait un peu bizarre comme mot, mais en fait, c'est juste est-ce qu'on a des ovaires ou des testicules. Donc, c'est les organes génitaux, en fait. Et là aussi, sur ce niveau de sexe biologique-là, on dit un organe mâle ou un organe femelle, mais en vrai, il y a
plein de variations.
Il y a plein de variations. Des gens nés intersexes entre les deux ou hermaphrodites avec les deux. Enfin, voilà, on ne sait pas aussi catégoriser. Qu'on veut bien nous l'apprendre. Et le troisième type de sexe biologique, c'est le sexe, alors là le mot est encore plus barbare, phénotypique. Et en fait, c'est assez simple ce que ça recouvre, c'est la morphologie, c'est-à-dire comment est fait le corps, avec plus ou moins de graisse à tel endroit, comment se dessinent les hanches, le cou, la pilosité.
Les seins, la barbe.
C'est tout ce qu'on appelle les caractères secondaires.
Et voilà. Qui sont définis par...
Par les hormones.
Les hormones.
La quantité de chaque hormone qu'on a dans le corps. Voilà.
Et là aussi, on l'a déjà dit à Kali, mais on parle d'hormones sexuelles, comme s'il y avait des hormones qui seraient mâles et des hormones qui seraient femelles. Mais en vrai, c'est toute une question de proportion. Ouais. Et encore là, il y a une variation...
Donc non seulement sur ces trois morceaux de sexe biologique, sur chacun, il y a des variations et c'est plus un continuum qu'un truc binaire, soit l'un soit l'autre. Mais en plus, ces trois sexes biologiques ne concordent pas forcément entre eux. C'est-à-dire, j'ai trouvé une petite phrase qui me parle, alors je vous la redis. On n'a pas toujours l'apparence de ses organes, ni les organes de ses chromosomes. Ce qui fait que, en plus des variations sur ces trois niveaux, et ben entre eux, ils peuvent ne pas être en concordance. Quoi.
Donc on pourrait avoir des seins avec des testicules, tout en étant... Bon, peut-être pas, mais...
Je sais, ça peut...
Avec, en étant XX.
Oui. Oui, c'est ça. Après, il y a plein de variations. On peut s'amuser à faire les variations. Vous savez, comme les... Non, j'allais dire des bêtises.
Bon, en tout cas, ça, c'est le sexe biologique et d'ordinaire. Et c'est un peu dommage, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui dans la société actuelle. Le sexe biologique est catégorisé en deux, entre les hommes et les femmes, en fonction de...
Mâle ou femelle, même, on peut dire, sur le sexe biologique. Et, y compris pour les bébés qui naissent indéterminés en termes de sexe biologique, où c'est soit la famille, mais plus généralement les médecins qui décident que ce sera une petite fille ou un petit garçon, en informant ou pas les parents d'ailleurs de ce choix-là.
Du coup, indéterminé, à savoir qui serait dans ces variations entre ces deux pôles, et tac, parce qu'on a l'habitude de bicatégoriser, hop, on décide de faire passer la personne d'une catégorie, d'un côté de la catégorie.
Non, mais c'est vrai, parce que sinon, elle remplit quoi, F ou M dans les formulaires administratifs? C'est pas possible.
Grand problème. Ah. Et alors le genre, qu'est-ce que donc le genre?
Alors le genre, c'est, on va dire, le sexe social, c'est-à-dire c'est une construction sociale qui s'appuie sur le sexe biologique, c'est-à-dire on part d'un sexe biologique qui va dire, dans notre société aujourd'hui, mâle ou femelle, et on dit, pas consciemment on se le dit, hein, mais en gros on se dit, mâle, un sexe mâle, ça veut dire que l'individu, ça va être un homme, et du coup cet individu-là, il doit se comporter de telle manière.
Donc, et ça, c'est la société un peu qui dit ça.
Oui, tout à fait, c'est les normes.
La société, c'est pas un acteur comme ça indépendant, mais en tout cas, c'est une reproduction de normes.
Voilà. C'est les habitudes qu'on a, c'est aussi des choix à certains niveaux, hein, de comment on parle à un bébé garçon, à un bébé fille, et qui vont rentrer chaque individu dans une catégorie fille ou garçon, femme ou homme.
Ce qui fait que les hommes sont bricoleurs, entreprenants, aiment le foot et la bière, et les femmes... sont douces, aiment faire la cuisine et du shopping.
C'est voilà, ça, c'est ça. Et ça, c'est pas parce qu'on a un vagin ou un pénis, c'est bien parce qu'à partir de ces attributs biologiques, on a construit des identités pour ces individus voilà, qui sont imposés.
Et du coup, c'est aussi le fait de se percevoir comme tel.
Oui.
De... Par exemple, si on a un sexe biologique mâle, on peut pour autant avoir envie de se comporter comme une femme ou de se considérer comme, comme tel. Et ça, c'est possible, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment comment on se perçoit ou on est perçu par les autres.
Et ça, j'ai l'impression que c'est une des craintes des gens, des détracteurs de l'introduction de ces trucs-là dans les manuels. En fait, ils ont très peur de la confusion des genres.
Que chacune puisse définir qu'est-ce qu'elle est.
Alors que bon, à vrai dire, on a bien le droit de choisir
qui on veut être. Mais en fait, je crois qu'il y a aussi une confusion dans les manuels. C'est-à-dire... Enfin, je ne sais pas si c'est dans les manuels, mais en tout cas, sur les chaînes d'infos de base, là, dans les infos, il y avait des grosses phrases, là, vous savez, comme ils font des résumés, et c'était... en gros, ils disaient que chaque individu peut devenir homme ou femme en fonction de son choix personnel. Or, c'est pas ça qu'il y a dans les bouquins. Dans les bouquins, c'est justement de différencier qu'est-ce qui est de l'ordre du physique donné biologiquement et qu'est-ce qui est de l'ordre de la construction sociale. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, en aucun cas, c'est un choix de devenir homme ou femme. C'est quelque chose qui nous est imposé avec toutes ces caractéristiques, quoi.
Oui, mais ça peut quand même être un choix. Quand on pense aux personnes trans, à un moment donné, c'est aussi un choix de leur part de se considérer dans le genre qui ne correspond pas à leur sexe biologique.
Sauf que les manuels scolaires, c'est pas là-dessus que ça porte en fait.
Oui.
Sauf que c'est ça qui est mis aux infos à la télé. Du coup, voilà. Ah oui, et puis le genre aussi, on peut trouver l'appellation identité sexuelle. Quand on parle d'identité sexuelle, a priori, ça correspond à cette histoire de genre, de sexe construit, de sexe social. Mais du coup, c'est une appellation qui est un petit peu confusionnante et ça pourrait être intéressant d'essayer d'appeler ça l'identité sexuée et non pas sexuelle, parce que là, ça renvoie à la sexualité qui est encore autre chose.
Et ce qu'on voudrait rajouter aussi, c'est que le genre, là on l'a défini comme ça, mais en fait c'est carrément un domaine de recherche en soi, c'est un concept d'analyse de la société, etc. C'est pas juste les rôles sociaux qu'on attribue aux hommes ou aux femmes. Et bon, là on va pas faire vraiment le détail de ces définitions-là, mais en tout cas c'est vraiment un outil conceptuel...
qui est bien différent d'une théorie, c'est-à-dire c'est pas une théorie à valider et à prouver, c'est en gros des lunettes qu'on chausse pour analyser la société en termes de rapport.
Les lunettes qu'on quoi ?
Qu'on chausse
nos lunettes.
Oui, vous aviez pas les gestes.
Donc si j'ai bien compris, bon j'avais bien compris avant, mais le sexe biologique, toutes ces histoires de chromosomes, de testicules et tout ça, ça ne détermine pas l'identité de mon genre social, quoi.
Non, c'est bien tout ce qu'on plaque et qu'on projette à partir de ce sexe biologique qui va déterminer socialement.
D'accord. Et alors, du coup, je crois qu'il y a un deuxième truc qui chagrine les UMPistes et les catholiques. Enfin, je veux pas faire de généralité. Hein. Peut-être qu'il y a des catholiques qui sont d'accord avec ces idées-là. Mais c'est en ce qui concerne l'orientation sexuelle.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'ils confondent effectivement identité sexuelle, donc genre, et orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, c'est bien quel choix de pratique sexuelle avec qui on veut faire du sexe, en fait. Donc, on parle souvent d'orientation sexuelle qui est quelque chose, on va dire, à mi-chemin entre l'identité et la pratique. Et les pratiques qu'on choisit d'avoir en termes de sexe. Et du coup, c'est un terme un petit peu confusionnant parce qu'on ne sait pas trop ce que ça recoupe, quoi.
Mais donc nous, on préfère parler de pratiques sexuelles et ça, elles sont complètement indépendantes avec le genre qu'on a. On peut, et avec le sexe biologique qu'on a aussi. On peut être, avoir des ovaires, mais se considérer comme un homme et aimer des femmes. Enfin, aimer faire de la sexualité avec des femmes. Enfin, on peut, on peut tout, quoi. Enfin, tout est le sexe biologique, les pratiques sexuelles et le genre social sont des choses indépendantes.
Voilà, et oui, voilà, c'est pour ça qu'on préfère le terme de pratique, parce que aussi, c'est identité, il y a un peu un truc de définitif ou orientation, alors que les pratiques, elles sont changeantes, quoi. Et voilà, et c'est comme le genre, d'ailleurs, le sexe construit socialement, qui peut être changeant, c'est pas quelque chose de définitif, on peut, puisqu'il se construit, ben, on peut le déconstruire, le reconstruire, voilà, tel qu'on l'entend, si on trouve la force en soi et autour de nous d'aller contre ce qu'on nous dit d'être, en fait.
Peut-être qu'on va pas vous faire le détail des références qu'on avait envie de vous donner. On les mettra sur notre site internet. Vous verrez, il y a plein de choses pour creuser plus la question, des noms de personnes, etc. Peut-être on va s'écouter une petite intermède musicale.
C'est un petit truc qu'une amie m'a fait découvrir cette semaine. Voilà, on avait envie de le partager avec vous.
N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars c'est un jeune mec et une garce.
C'est une pute.
Un coureur c'est un jogger et une coureuse.
C'est une pute.
Un chauffeur il conduit le bus et une chauffeuse.
C'est une pute.
Un entraîneur c'est un coach sportif et une entraîneuse.
Bah c'est une pute.
Un homme à femme c'est un séducteur, une femme à homme.
C'est une pute.
Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne.
C'est une pute.
Un cochon c'est un mec sale, une cochonne.
C'est une pute.
Un salaud c'est un sale type. Une salope,
bah c'est une pute.
Un allumeur s'allume le gaz, une allumeuse.
C'est une pute.
Un masseur, c'est un kiné, une masseuse.
C'est une pute.
Un maître, un instituteur, une maîtresse.
C'est une pute.
Un homme facile, c'est un gars sympa, une femme facile.
Bah c'est une pute.
Un calculateur, un matheux, une calculatrice.
C'est une pute.
Un toxico, c'est un drogué, une toxico.
C'est une pute.
Un bitch, un volet sur la plage, une bitch.
C'est une pute.
Un Hilton, c'est un hôtel et Paris Hilton.
Bah c'est une pute.
Bon, alors on n'a pas choisi ce morceau pour sa potentialité musicale, hein, pour sa qualité artistique.
Ni pour sa finesse.
Ni pour sa finesse, mais donc c'était Fatal Bazooka, c'est une pute. Voilà, nous, ce qui nous paraissait intéressant dans ce morceau-là, c'est bah, voilà, remontrer une fois de plus le sexisme de la langue française, hein, puisque en vrai, sur le contenu de ce qu'il raconte, effectivement, hein, les adjectifs et les noms suivants, si c'est collé à des hommes ou à des femmes, ça n'a pas du tout la même connotation, quoi. Et voilà, après, ça peut prendre la tournure là d'injure, mais pas forcément. Là, je pense à l'adjectif, par exemple, le courage, un homme courageux, ça va être quelqu'un qui va affronter les dangers. Une femme courageuse, ça va être une femme qui réussit à endurer plein de choses et à s'en sortir. Voilà, du coup, ça montre aussi les rôles sociaux de genre dont on parlait tout à l'heure.
Et pour continuer un peu sur cette thématique...
Non, juste pour Fatal Bazooka, voilà, dire aussi un autre truc que ça montre, et là, on est moins, moins contente, c'est...
On n'était pas contente du sexisme du langage, hein.
Non, mais parce que là, moi, je trouve qu'il récupère... Enfin, voilà, je vais dire ce que je veux dire. C'est la stigmatisation des gens qui font la prostitution ou ce qu'on appelle aujourd'hui le travail du sexe, les travailleurs du sexe, c'est-à-dire ce truc de l'insulte, de la pute, c'est une insulte, alors que ben c'est un choix de métier. Alors bon, on va pas rentrer dans la polémique parce que ça nous ferait déborder largement de l'heure. Mais voilà, du coup...
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop cette critique dans cette chanson.
Du coup, il critique pas, il prend pas de distance par rapport à ça, c'est pour ça.
Et du coup, moi je disais, pour revenir un peu aussi sur cette histoire de construction de genre et tout ça, il y a une espèce d'idée reçue qui est assez reçue, quoi, partagée, c'est que le pourquoi du comment, les femmes savent mieux communiquer et les hommes savent mieux se lire une carte routière, ça serait parce qu'on aurait des cerveaux différents. Eh ben en fait ça c'est une idée reçue, quoi.
C'est-à-dire c'est faux.
C'est faux. Enfin c'est faux. C'est en fait il y a une chercheuse qui s'appelle Catherine Vidal qui montre, enfin qui est une neuroscientifique, je sais pas quoi, qui montre qu'en fait il y a autant de cerveaux qu'il y a d'individus et il y a aucune différence repérables entre des catégories de cerveau masculin et de cerveau féminin.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des différences d'un individu à l'autre, mais ça ne crée pas deux grandes catégories, le cerveau masculin et le cerveau féminin. Il y a plus de différences d'un individu à l'autre que entre les hommes et les femmes, en gros.
Voilà. Après, il s'avère qu'il y a des fois des tests qui sont faits, notamment sur ces histoires de cartes routières ou de calculs, bref, pour un peu estimer les capacités du cerveau, et où on trouve des différences entre les hommes et les femmes. Certes minimes, mais différences quand même. Et en fait, elle explique qu'en fait, ces différences-là, elles sont pas liées à des capacités innées du cerveau, mais bien à la construction sociale et du coup à la construction du cerveau dans le temps, en fait. Comment vous expliquez ça ?
C'est comment, quelles zones vont être sollicitées pour faire quoi ? Et le cerveau, c'est quelque chose qui s'entretient et qui pousse au fur et à mesure des sollicitations. Donc effectivement, si comme on parlait tout à l'heure de genre et de sexe social, si l'appartenance à un genre fait qu'on est censé plus vers les matières scientifiques, et ben il y a le cerveau qui va faire les calculs scientifiques, qui va se développer plus.
Voilà, sachant que du coup ça, c'est, elle appelle ça la plasticité du cerveau, de répondre en fait aux sollicitations qu'on peut avoir et quand on est enfant, adulte, etc., qui va faire qu'on va avoir développé telle ou telle capacité. Mais c'est aussi des choses qui sont réversibles, c'est-à-dire que un homme qui est hyper fort à lire les cartes routières, s'il s'arrête de pratiquer cette activité de lecture de cartes à un moment donné, et si une femme en face lit des cartes routières tous les jours, en fait la différence, elle va se faire très très vite, quoi, au profit de la femme. Donc en fait, c'est vraiment des choses qui sont modifiables. Voilà, sachant que, comme ça pour info, le cerveau, c'est constitué de neurones qui se connectent entre elles, et que 90% de ces neurones, elles se relient entre elles à partir de la naissance. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% des neurones qui sont connectés avant la naissance. Donc en fait, c'est vraiment toute la vie où le cerveau se construit, se déconstruit, se reconstruit.
Peut-être une petite anecdote, du coup, ça me fait penser à un bout de reportage que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur comment c'est bien ce qu'on plaque sur les personnes qui vont influencer, même si on ne s'en rend pas compte. Il y avait un test où c'était une photo de bébé qui pleurait. Et une moitié du groupe, on leur a dit que c'était un bébé fille, une petite fille, et l'autre moitié du groupe, on leur a dit que c'était un bébé garçon, donc un petit garçon. Et la moitié du groupe qui pensait que c'était une fille trouvait qu'elle avait besoin d'être réconfortée, qu'elle était triste, qu'elle avait un gros chagrin et tout ça. Et l'autre moitié qui pensait que c'était un garçon, donc exactement la même photo, hein, c'est oh là là, quel bébé colérique, il sait ce qu'il veut. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'on plaque, y compris sur des nourrissons où franchement on peut pas faire la différence, quoi, et du coup qui vont entraîner
La construction du genre. Parce qu'un bébé qui reçoit ça comme commentaire, en fait, ça transforme son rapport à son pleur, c'est-à-dire que si on lui dit ah là là c'est de la colère ou c'est du chagrin, ça donne pas la même chose. Donc moi j'avais envie de vous donner deux petites références de cette Catherine Vidal qui est assez chouette et assez claire en fait dans ce qu'elle dit. Une vidéo qu'on retrouve sur YouTube, Le cerveau a-t-il un sexe, et un petit bouquin très clair aussi aux éditions Les petites pommes du savoir. Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau?
Ok, bon, on remettra, comme d'habitude, toutes ces références sur le site, mais en tout cas, en tapant le titre, vous pouvez retrouver, je pense, sur Internet, ce qui vous intéresse.
On écoute Sexy Sushi à mon maîtresse.
Ma femme, mon pieu, tout cela est bien ennuyeux. souvenir boueux. Que fais-tu dans mon pieu? Amour, maîtresse, divorce, câlin, tendresse. Avenir boueux, que fais-tu dans mon pieu? Il trompait Nadine avec sa secrétaire. Tous les week-ends il la baisait dans sa garçonnière. Mais sa femme l'a pris et son cœur fut brisé. Déjà que sa vie était pathétique et ratée. Avenir radieux, amant ambitieux. Ma femme, mon pieu, tout cela est bien ennuyeux. Amant, maîtresse, divorce, câlin, tendresse. Avenir boueux, que fais-tu dans mon pieu?
Est-ce que les toilettes vaginales sont indispensables pour l'hygiène? Je n'en fais pas du tout. Et j'ai lu ça par hasard sur nonnonnon.com. Est-ce que les toilettes intimes ne sont pas suffisantes? Comme j'ai souvent des problèmes d'odeur et qu'au niveau gynéco, il n'y a pas d'infection, je me dis que c'est peut-être la solution. Mais il me semblait qu'aujourd'hui on l'a déconseillé. Pouvez-vous m'aider sur cette question?
Alors ça, c'est une question de forum que Mélanie a trouvée récemment. Et... On l'a pas dit en début d'émission, on n'est pas des expertes hein, sur toutes ces questions-là, mais c'est vrai que ça nous intéresse et du coup on va se renseigner. Donc oui, nous avons quelques éléments de réponse à fournir à cette demoiselle. Alors, s'il y a une chose à retenir sur la question des toilettes intimes, c'est de ne pas laver le vagin.
En ce qui concerne les femmes, du coup, cette question-là,
on se concentre sur les sexes biologiquement féminins. Femmes ou pas autour, mais voilà. Oui, donc ne pas laver le vagin, c'est une grossière erreur parce que le vagin est auto-nettoyant et en plus il est constitué d'une, ce qu'on appelle une flore, donc de toute une vie à l'intérieur
des petites fleurs
et qui s'auto-régule, et c'est-à-dire si on introduit un produit, ça déstabilise tout ça et ça peut faire par exemple des mycoses, ce genre de choses. Donc premier principe, ne jamais se laver l'intérieur du vagin.
Même ne pas faire de douche vaginale, introduire de l'eau comme ça, ça décape en fait, ou avec des poires vaginales, tout ça, c'est très déconseillé. Après, si vous avez envie de le faire, faites-le, hein, on va pas vous interdire, mais c'est nocif pour votre vagin en tout cas.
Voilà. Bon, par contre, ce qu'il est bien de laver, c'est la zone extérieure du sexe féminin, c'est-à-dire la zone du clitoris autour, les grandes lèvres, les petites lèvres, en fait, tout ce qui est à l'extérieur, la partie externe du sexe. Autre chose, alors là c'est pas une question de nocivité, mais c'est une question que ça coûte cher et que ça sert à rien. C'est tous les produits qu'on veut nous vendre sur l'hygiène intime qui serait
l'intime à la lavande.
Voilà, qui serait. Alors outre la question de l'odeur, il y a le truc que ça serait spécialement étudié et testé pour que ce soit super bon pour nos muqueuses, blablabli, blablabla. Eh bien en fait, c'est du toc. Ce ne sont que des arguments commerciaux pour nous faire acheter ces produits. C'est-à-dire que en fait, il faut juste un produit qui aille avec notre peau, et a priori, peau et muqueuse, c'est à peu près le même type de produits qui vont nous convenir ou pas. C'est-à-dire, bon, a priori, du savon de Marseille, il y a des filles qui se lavent avec, ça va très bien, mais il y en a d'autres pour qui ça va être un peu agressif. Donc, il faut trouver le produit qui nous va, que ce soit un gel sans savon ou un savon doux, mais on n'a vraiment pas besoin de ces produits spéciaux toilettes intimes qui coûtent super cher.
Ce qui veut dire aussi que si vous trouvez que votre savon est agressif pour vos muqueuse de votre sexe, ça veut dire qu'il l'est aussi pour votre peau en général. Aussi, enfin, ouais. Je trouve. Mais je disais la lavande, c'est pas pour rien que je le disais, parce que du coup, notre copine, sur sa question de forum, elle disait, comme j'ai souvent des problèmes d'odeur, je me dis que c'était peut-être la solution de faire des douches vaginales. Du coup, je voulais qu'on discute un peu aussi de cette histoire d'odeur qui est...
J'avais d'autres petits trucs à dire, mais du coup c'est pas grave, ça viendra plus tard. Non, mais pour l'odeur, de toute façon, naturellement, le sexe féminin, mais aussi masculin d'ailleurs, sent. Enfin, je veux dire, c'est des odeurs corporelles. Après, on peut on peut être gêné par les odeurs de son sexe, mais soit c'est vraiment des odeurs très désagréables et ça peut être le signe d'une infection, d'une bactérie, donc autant aller consulter une gynécologue ou un gynécologue pour voir s'il n'y a pas de souci, si vraiment c'est quelque chose qui nous paraît bizarre. Et sinon...
Après, moi, je crois qu'il y a aussi ces histoires de matière et de pantalons trop serrés, etc., qui des fois font qu'il y a une transpiration, un enfermement de cette zone qui peut...
Une macération,
voilà, c'était le mot que je cherchais, qui peut provoquer un peu plus d'odeur. Du coup, cette personne-là, on pourrait aussi lui dire, effectivement, si tu utilises plutôt des sous-vêtements en matière synthétique, des pantalons très serrés, ça ne doit pas aider à... Ouais. À une odeur fraîche.
En gros, ce qui est conseillé, c'est sous-vêtements coton et des pantalons pas serrés, quoi. Après, pour ce truc d'odeur ou de perte, il y a aussi des nanas qui portent des protège-slips en dehors des périodes de règles. Pareil, c'est pas ultra conseillé parce que certes, ça tâche pas les culottes, mais par contre, c'est les matières étant des matières vraiment très synthétiques, un, ça sèche la muqueuse et deux, ça, en fait, le truc de macération et de
ça transpiration. Ça empêche de respirer, quoi.
Voilà. Peut-être deux petits autres conseils sur des produits spécifiques, par exemple des antiseptiques quand on a des lésions sur le sexe, ça peut être prescrit par un médecin, mais en aucun cas faut les utiliser sur la durée de prescription et c'est vraiment pas quelque chose à utiliser sur du long terme. Et idem pour les lingettes qui sont souvent alcoolisées, là. Alors, ça peut être utilisé ponctuellement parce qu'on a envie de rafraîchir la fouf, j'ai envie de dire, mais pareil, pas quotidiennement parce que c'est pas très bon, quoi, sur la longue. Voilà. Et puis, d'autres arguments qu'on peut entendre. Non, mais non, vous découvrirez ça selon vos lectures parce qu'on a en fait
un article
à vous conseiller sur Internet où voilà, tout ça, c'est, vous pouvez le retrouver et bien d'autres choses encore.
C'est alors sur le blog Zone Zéro Gêne, on en parle régulièrement. Et l'article, c'est Toilette intime, pourquoi, comment, jusqu'où et avec quoi. Voilà, on va se quitter. C'était Calibre du 15 septembre 2011. À la technique, c'était Greg et Émilie. Au micro, c'était Myriam et Mélanie.
Voilà, voilà.
Vous pourrez retrouver cette émission sur calibre.poivron.org, calibre.poivron.org. T'as quelle idée d'avoir un nom pareil
à exprimer. Et puis, de toute façon, là, nous, on se retrouve toutes les semaines avec, pas forcément nous, hein, à l'antenne, mais en tout cas, tous les jeudis soirs, il y aura une équipe Calibre pour vous accueillir en direct de 20h à 21h. Donc, ce sera le moment d'appeler. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots sur la boîte mail. Bonne semaine. Salut.
Salut.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.